8h à Paris, à l'écoute de Radio France Internationale, 6h, ton universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Nathalie Amar, bonjour à tous.
Dans ce journal, il dénonce la rhétorique de la gauche communiste.
Mais pas de cohésion nationale après la nouvelle tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump. Le candidat républicain accuse ouvertement Joe Biden et Kamala Harris d'avoir inspiré le suspect formellement inculpé hier. Nous serons aux États-Unis. À la une également, à Gaza, l'eau est utilisée comme une arme de guerre selon des experts de l'ONU. Ils ont rendu un rapport sur la question, les détails à suivre. Au Soudan, la guerre des généraux se poursuit. Les civils sont en première ligne. Violence et exode massif, notamment ces dernières semaines dans l'état d'Al Jazeera. Elle se veut plus discrète pour tenter de tromper les autorités. La déforestation chimique s'accélère dans le Pantanal au Brésil. En France, la composition du gouvernement de Michel Barnier se fait toujours attendre. Et puis du cinéma dans ce journal. Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov sort sur les écrans. Le film fait directement référence aux manifestations qui ont suivi la mort de l'Iranienne Mahsa Amini.
Leur rhétorique fait que l'on me tire dessus. Donald Trump accuse ouvertement les démocrates d'être responsables de la tentative d'assassinat qu'il a visée il y a plus de 24 heures.
Mais le candidat républicain dénonce le langage très incendiaire des démocrates alors que le suspect interpellé après avoir passé 12 heures en embuscade et armé près du golfe de Donald Trump a été inculpé. David Thompson, vous êtes à Miami. Donald Trump qui met en cause les démocrates et affirme que certaines accusations des démocrates le visant avaient été reprises sur les réseaux sociaux du suspect.
Oui, selon Donald Trump, la responsabilité de ces deux tentatives d'assassinat incombe directement à Joe Biden et à celle qu'il surnomme camarade Kamala parce qu'il l'accuse d'être une menace pour la démocratie américaine, accusation que l'on retrouve effectivement sur les réseaux sociaux du suspect de cette tentative d'assassinat du golfe de Palm Beach. À cause de ce discours de la gauche communiste, écrit Trump sur ses réseaux, les balles sifflent et cela ne va faire qu'empirer. Don Jr., son fils aîné, renchérit de son côté et ne manque pas de souligner que le suspect affichait un autocollant Biden-Harris sur le pare-choc de sa voiture. En tout cas, ce suspect a comparu pour la première fois devant le tribunal de Palm Beach hier, menottes aux pieds et aux poignets. Ryan Roos, 58 ans, a été inculpé pour port d'armes illégales en raison de son casier judiciaire, mais dès la semaine prochaine, d'autres inculpations devraient suivre contre cet ancien auto-entrepreneur du bâtiment que le FBI accuse de tentative d'assassinat du candidat républicain. Dans son dossier de justice, on apprend notamment, grâce au bornage de son portable, qu'il est resté caché pendant près de 12 heures dans ce buisson en lisière du golfe pour attendre Donald Trump avec son fusil AK-47 avant d'être repéré par le Secret Service. Il était alors à 300 mètres de Donald Trump mais n'a pas eu le temps d'ouvrir le feu.
David Thompson à Miami, Donald Trump qui sera en campagne dans le Michigan dans quelques heures. Kamala Harris se rend, elle, en Pennsylvanie, état clé pour la présidentielle de novembre où l'on commence à voter à distance. Décryptage de cet état, la Pennsylvanie, dans le dossier du 9h.
L'occupation israélienne en débat à l'Assemblée générale de l'ONU.
Les États membres de l'ONU qui vont débattre à partir d'aujourd'hui d'un projet de résolution palestinienne exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Texte dont la probable adoption provoque déjà la colère d'Israël. Israël accusé par l'ONU d'utiliser l'accès à l'eau comme arme de guerre à Gaza. Des experts de l'ONU accusent dans un rapport Israël d'assoiffer littéralement la population Gazaoui. À Genève, les précisions de Jérémy Lanche.
Dans les pays riches, nous consommons en moyenne une centaine de litres d'eau par jour et par personne. Pour notre nourriture, notre maison, nos sanitaires, en cas de crise humanitaire, le minimum requis, c'est 15 litres par personne. À Gaza, aujourd'hui, c'est 3 fois moins. Et encore, on parle d'eau qui n'est pas toujours potable. Pedro Aroro Agudo est le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'accès à l'eau.
En droit international, le blocage systématique de l'aide humanitaire et de la nourriture est considéré comme un crime contre l'humanité dans la catégorie extermination d'une population. Et l'eau, c'est la nourriture principale dont nous avons besoin pour survivre. Si en plus de cela, l'eau à disposition n'est pas potable, elle devient le plus terrible vecteur de maladies et de morts qui existent. Donc dans ce cas présent, l'eau est clairement utilisée comme une arme de guerre.
La quasi-totalité des infrastructures liées à l'eau sont détruites, endommagées ou tournent au ralenti à Gaza. Israël dément les avoir ciblées et accuse en retour le Hamas. Mais selon les experts, la stratégie à l'œuvre ne date pas de la guerre. Pour preuve, la situation des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Ils ont aujourd'hui 18 fois moins d'eau à disposition que les colons israéliens. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et puis toujours concernant le Proche-Orient, Benyamin Netanyahou annonce cette nuit que le retour des habitants qui ont fui le nord d'Israël en raison des tirs du Hezbollah libanais, ce retour est désormais l'un des objectifs de guerre de son gouvernement. Depuis des mois, les tirs transfrontaliers sont quasi quotidiens entre le Hezbollah libanais allié de l'Iran, mais aussi du Hamas et l'armée israélienne.
RFI 8h05 à Paris, au Soudan. Voilà 17 mois que la guerre oppose l'armée régulière et les paramilitaires des FSR.
Une guerre dite des généraux dont les civils soudanais sont les premières victimes. Dans le centre du Soudan, plusieurs villages de l'Est et du Nord d'Al Jazeera ont été attaqués et pillés par les forces de soutien rapide. Précision, Ouda Ibrahim.
Selon un communiqué du comité de résistance de la région d'Abou Kouta, situé à l'est de l'état d'Al Jazeera, 40 civils au moins ont été tués dimanche dernier dans le village de Kouznaka lors de l'attaque des FSR. Selon la même source, 20 autres morts ont été enregistrés dans le village d'Andab, 2 à Wad El Gatra et 1 mort à Temboul, mais il n'existe aucun bilan complet de victimes. Près de 50 villages auraient été attaqués et pillés durant la semaine dernière dans Al Jazeera, selon plusieurs sources. Le quotidien en ligne Soudan Tribune rapporte que les FSR détiennent 17 civils dans l'un de ces villages et réclament des rançons pour les libérer. Des sources locales ont estimé le nombre de têtes de bétail pillées à 5000. La récolte a été également pillée. Au chef-lieu d'Abou Kouta, la banque agricole, le centre de la police et le marché ont été pillés et détruits. Les habitants ont été totalement dépouillés et obligés, sous la menace, de prendre le chemin de l'exode.
Ouda Ibrahim du service Afrique d'RFI. L'ambassadeur congolais en Belgique, convoqué par le ministère des Affaires étrangères, Bruxelles proteste contre la condamnation à mort d'un citoyen belge, Jean-Jacques Wando, condamné dans le procès sur les événements du 19 mai, qualifié de tentative de coup d'État par les autorités congolaises. Jean-Jacques Wando, expert militaire, considéré par la justice congolaise comme le concepteur de ce coup d'État manqué.
Au Brésil, depuis le retour de Lula au pouvoir, la déforestation baisse en Amazonie.
Voilà pour les bonnes nouvelles. En revanche, cette déforestation, elle continue avec force dans d'autres régions du pays. C'est le cas notamment dans le Pantanal, une immense zone de prairies et de savanes humides. L'ONG Mighty Earth, qui traque par satellite la déforestation, pointe dans un nouveau rapport rendu public ce matin le recours à une nouvelle technique pour détruire la forêt et y installer du bétail, celle de la déforestation chimique. Explication avec Lucille Gimbert.
En avril dernier, un grand producteur agricole brésilien a été condamné à une amende record dans l'état du Mato Grosso, 500 millions de dollars. La police a démontré qu'en quelques années, ce propriétaire de 11 fermes a pulvérisé par avion une vingtaine de produits chimiques différents pour détruire plus de 80 000 hectares de forêt dans le Pantanal. Au Brésil, la déforestation se fait généralement en coupant les arbres, mais les satellites détectent cette méthode facilement, car des zones vertes boisées deviennent soudainement marron ou noir, vu du ciel. La déforestation chimique, elle, se veut plus discrète, explique Mariana Ganero de l'ONG Mighty Earth.
Quand on utilise la déforestation chimique, les arbres elles vont mourir progressivement. Petit à petit, les feuilles vont tomber, les arbres vont devenir plus faibles et elles vont finir par mourir. Et donc, ça va donner l'impression que c'est une dégradation naturelle de la forêt, mais ce n'est pas, c'est criminel.
Et les effets funestes de ces pesticides s'étendent bien au-delà de la zone de pulvérisation.
Ça vole avec les vents. Ça va tuer pas seulement les arbres, mais toute la biodiversité locale, toute la végétation locale, les animaux. Ça va aussi avoir un impact sur la santé des communautés qui sont proches. Et surtout, ça va aussi impacter la qualité de l'eau.
Une pollution particulièrement dévastatrice dans le Pantanal, région humide où les rivières jouent un rôle central.
Lucille Gimbert. En Europe, les ONG et les écologistes redoutent une réorientation de l'exécutif européen au détriment des ambitions climatiques. Ursula von der Leyen devrait dévoiler prochainement sa nouvelle équipe après le départ fracassant hier de Thierry Breton, commissaire sortant au marché intérieur, en désaccord récurrent avec la présidente de la Commission européenne, le Français qui s'était attaqué aux abus de pouvoir des géants du numérique. La directrice générale du réseau social X a d'ailleurs applaudi hier sa démission. Une belle journée pour la liberté d'expression, s'est-elle réjouie.
Et après le départ de Thierry Breton, Emmanuel Macron a rapidement proposé le nom de Stéphane Séjourné pour le remplacer.
Oui, ce qui veut dire que par ricochet, eh bien, il y a un poste qui se libère dans le gouvernement démissionnaire, celui convoité du ministre des Affaires étrangères, alors que Michel Barnier, Premier ministre, poursuit ses consultations pour constituer son équipe, Valérie Gasse.
Va-t-il y avoir un jeu de chaises musicales au Quai d'Orsay alors que le départ de Stéphane Séjourné pour la Commission européenne vient d'être annoncé? Depuis des mois, Gérald Darmanin fait savoir son intérêt pour le ministère des Affaires étrangères. Celui qui est encore ministre de l'Intérieur a rencontré Michel Barnier samedi, officiellement pour que le Premier ministre le remercie de son travail dans l'organisation des JO. Une occasion aussi d'échanger sur la formation du prochain gouvernement. Un exercice sous contrainte pour Michel Barnier qui doit tenir compte des équilibres politiques alors que la droite républicaine fait le forcing et le bloc central de la résistance pour que le gouvernement ne penche pas à droite toute. Michel Barnier doit aussi tenir compte de la volonté de changement manifestée dans les urnes par les Français en formant une équipe qui ne recyclera pas trop de ministres sortants. François Bayrou a même plaidé pour un renouvellement intégral. Michel Barnier a promis lui de ne pas faire un simple remaniement avec même des personnalités de gauche dans l'équipe. De l'intention à la finalisation, le casting prend du temps et ne devrait pas être bouclé avant la fin de la semaine.
Valérie Gasse, une expertise médicale a conclu hier qu'il était bien en état de comparaître malgré des problèmes de santé. Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes, sera en principe de retour aujourd'hui devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon. Et puis toujours au chapitre judiciaire, on apprend ce matin que le rappeur américain Puff Daddy a été arrêté par la police à Manhattan après le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, notamment pour agression sexuelle. Les détails dans le prochain journal.
On termine, Jeanne, avec du cinéma. Dernier film du réalisateur iranien Mohamed Rasoulof.
Oui, ça s'appelle Les graines du figuier sauvage. Film qui avait fait sensation au festival de Cannes. En mai dernier, Mohamed Rasoulof avait quitté son pays, l'Iran, pour échapper à une peine de plusieurs années de prison. Et justement, dans les graines du figuier sauvage, il fait le portrait d'une famille déchirée par la dictature. Présentation Elisabeth Le Kerry.
À Téhéran, Iman, marié bon père de famille, est nommé juge d'instruction du tribunal révolutionnaire, en d'autres termes, bras armé du régime. Au même moment, le pays s'embrase suite à la mort de la jeune Mahsa Amini dans un centre de la police des mœurs. Quand son pistolet de service disparaît, les soupçons du père se portent sur ses deux filles adolescentes, révoltées par la violence de la répression. Les graines du figuier sauvage est un film qui transpose la dictature, sa violence et la paranoïa qu'elle génère au cœur du noyau familial. Mi-thriller, mi-étude de caractère d'un personnage sombrant dans la folie, le film se nourrit aussi d'images de la brutalité policière captée sur les réseaux sociaux. À travers elle s'exprime la colère et la révolte d'un cinéaste qui nous force à regarder la dictature au fond des yeux, nous donnant à voir comment elle détruit autant les esprits que les corps.
Elisabeth Le Kerry du service culture d'RFI.
Merci Jeanne Bartoli. On vous retrouve pour le journal de 10h. 8h13 à Paris, c'est RFI Matin avec nos invités du jour. Anouar Abou Aïché, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne. Si la guerre fait rage à Gaza, il nous rappellera, lui, que la Cisjordanie occupée est loin d'être épargnée. Depuis le 7 octobre, il vit d'ordinaire à Hébron. Il est dans nos studios. 8h50, Maïdougouri sous les eaux. Après la rupture d'un barrage, des dizaines de milliers de personnes déplacées pour évoquer la réponse humanitaire. Guillaume Thibault en ligne avec Mohamed Malik Fall, coordonnateur résident de l'ONU au Nigeria. Et notre question d'environnement sur la science de l'attribution. Comment distinguer dans ces événements extrêmes, les inondations notamment, la part du changement climatique et celle des variations naturelles de la météo. RFI Matin, c'est aussi l'économie, la demande mondiale de plasma qui explose. Les États-Unis dominent ce marché du sang, c'est ce que nous dira Nathanaël Vitran. Et puis la musique et le nouvel album de Thomas Dutronc.
Il n'est jamais trop tard pour pardonner, se dire je t'aime. Faire de ce long voyage un poème. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard.
Thomas Dutronc en concert ce soir à La Cigale à Paris et dans le choix musical d'Edmond Sadaka juste avant 10h. Mais d'abord des nouvelles des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nathalie.
Du football d'abord. Coup d'envoi ce mardi de la saison européenne avec la Ligue des Champions. Nouvelle formule.
Sur la ligne de départ, 36 clubs réunis dans une même poule et qui auront chacun 8 matchs à jouer. L'objectif étant de se classer parmi les 8 premiers pour se qualifier directement pour les 8e de finale ou alors figurer entre la 9e et la 24e place de ce mini championnat pour espérer passer les barrages. Bref, le tenant du titre, le Real Madrid, fera face aujourd'hui à l'une des plus belles surprises de la saison passée en Bundesliga. Mais pas de raison de s'inquiéter, d'autant que le Real pourra compter sur le retour d'une de ses pièces maîtresses, Jude Bellingham, a révélé le latéral droit Dani Carvajal.
Je pense que les premiers matchs sont toujours importants dans toutes les compétitions. Avec ce nouveau format et en jouant à domicile, nous attendons cette Ligue des Champions avec beaucoup d'enthousiasme. Nous savons ce qu'elle représente pour le club. Nous essaierons d'être à fond dès la première minute et de donner le moins d'options possibles à nos adversaires. Le retour de Jude Bellingham, bien sûr, est une excellente nouvelle pour nous tous. Nous connaissons son niveau, ce qu'il nous apporte, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est une joie qu'il puisse être apte dès maintenant. Les exigences du Real Madrid sont toujours importantes. Nous avons fait de nombreux matchs sans perdre, mais nous devons produire bien plus en termes de jeu et de résultats. Et cette rencontre sera une nouvelle occasion de continuer à grandir dans ce sens.
Real Madrid-Stuttgart, coup d'envoi 19h, temps universel.
Autre belle affiche de cette première journée, le duel entre le Milan AC et Liverpool.
Les Rossoneri actuels 9e du Calcio ne partiront pas favoris face à des Reds 4e de Première Ligue. Et la clé, ça sera la défense, estime le nouvel entraîneur du Milan AC, Paulo Fonseca.
Liverpool est une très grande équipe, avec un jeu collectif très fort et des individualités que tout le monde connaît. Il est évident que nous devrons rendre une copie parfaite au niveau défensif, car on sait qu'en Ligue des Champions, face à ce genre de formation, la moindre erreur peut nous coûter un but. Donc très bien défendre pour pouvoir ensuite attaquer dans de bonnes conditions, ce sera vraiment indispensable pour espérer battre ce genre d'équipe qui, selon moi, est l'une des meilleures d'Europe actuellement.
Milan AC Liverpool, coup d'envoi 19h, temps universel. Les premiers matchs, ça sera Juventus PSV Eindhoven et Young Boys de Berne Aston Villa. Ils débuteront à 16h45, temps universel.
Aston Villa, le club anglais qui a annoncé le décès d'une de ses anciennes gloires.
Gary Shaw, vainqueur de la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de l'actuel C1, c'était en 1982 face au Bayern Munich. Champion d'Angleterre en 1981, Shaw, 213 apparitions sous le maillot des Villains, aura été membre d'une des équipes mythiques de l'histoire du club, hospitalisé récemment après une chute, l'anglais est décédé à l'âge de 63 ans.
Merci Antoine Grenier. Vous revenez à 9h42 pour d'autres infos. Aujourd'hui l'économie, on parle ce matin d'un commerce peu banal, le commerce du sang. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Nathalie.
Le sang humain, Nathanaël, a fait son apparition dans le top 10 des exportations des États-Unis.
Oui, les États-Unis dominent le commerce du sang. Dit comme ça, on dirait un slogan hérité des mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam ou une façon déguisée de parler du commerce des armes. Rien de tout cela, on parle bien ici très littéralement de sang humain. À tout seigneur, tout honneur, c'est le journal The Economist qui a repérer l'info. En 2023, les exportations de plasma sanguin ont représenté un peu moins de 2% du total des exportations américaines. C'est presque 4 fois plus qu'il y a 10 ans. En valeur, cela représente 37 milliards de dollars. C'est plus, Nathalie, que l'or ou le charbon.
Et sait-on à quoi sert ce plasma sanguin ?
Oui, il a un usage médical. Le plasma contient des protéines permettant de fabriquer des médicaments pour les personnes souffrant de cancer, par exemple. Il est aussi de plus en plus utilisé dans la recherche. La demande mondiale ne cesse d'augmenter. Les États-Unis fournissent à eux seuls près de 70% du plasma à usage médical de la planète.
Et qu'est-ce qui explique cette domination américaine ?
Alors, comme souvent, quand on parle de l'économie américaine, l'un des facteurs explicatifs, c'est l'absence de régulation. Aux États-Unis, vous pouvez donner votre sang plus de 100 fois par an, c'est 3 fois plus qu'en Europe. Face à la demande en 4 ans, 400 centres privés de prélèvement de plasma ont ouvert dans le pays. Surtout, les donneurs sont rémunérés à peu près 40 dollars le don, alors que dans la majorité des pays du monde, c'est strictement interdit. L'Union européenne l'autorise depuis le printemps dernier, mais interdit aux organismes d'en faire la publicité. Il y a un enjeu éthique. Le don du sang doit rester un geste de solidarité désintéressée. L'idée, c'est de ne pas littéralement aspirer le sang des plus pauvres. Il y a aussi un enjeu de santé publique. Si vous donnez votre sang dans l'objectif d'être payé, vous pouvez être tenté de dissimuler une maladie ou des comportements à risque qui vous disqualifient.
Mais Mais ça n'empêche pas, Nathanaël, les autres pays d'acheter ce placement américain.
Non, The Economist pointe l'hypocrisie de pays comme la Grande-Bretagne ou le Canada qui interdisent tous les deux de rémunérer leurs donneurs, mais qui sont devenus complètement dépendants aux importations de plasma venus des États-Unis. Les Européens aussi, dans une moindre mesure, et même la Chine, qui n'autorise pourtant qu'une seule protéine sanguine à l'importation, l'albumine. La Chine qui se fournit très largement chez son rival américain. Mais la palme de l'hypocrisie, Nathalie, revient à la France, qui a fait pression récemment sur Bruxelles pour ne pas autoriser la rémunération des donneurs au sein de l'UE, en dénonçant alors la commercialisation du corps humain déjà en cours aux États-Unis. Or, l'État français est aussi le seul actionnaire du groupe biopharmaceutique LFB, dont la filiale américaine opère 6 centres aux États-Unis, des centres où les donneurs sont rémunérés. Visiblement, les arguments éthiques se sont perdus quelque part dans l'Atlantique.
Nathanaël Vitran pour aujourd'hui l'économie. Merci à vous, à Paris, il est 8h20 et voici l'invité des RFI Matin. Bonjour Anouar Abouéché.
Bonjour.
Professeur de droit, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes de passage à Paris. Vous vivez d'ordinaire en Cisjordanie, à Hebron. L'occupation des territoires palestiniens sera tout à l'heure à New York, au cœur d'une session extraordinaire de l'ONU. Les États membres vont se prononcer sur une résolution exigeant la fin de cette occupation au plus tard dans les 12 mois. On va y revenir, mais d'abord un mot de la situation sur le terrain. Israël a mené fin août, début septembre, sa plus importante opération militaire en plus de 20 ans en Cisjordanie. Des attaques aériennes, au sol, Jenin, Toubas, Toul Karem, visées. Où en est-on aujourd'hui, Anouar Abouéché ?
On est dans une situation très dure d'occupation massive, de destruction de tous les jours. Vous savez, la vie d'un Palestinien là-bas, le matin, dès le matin, on entend combien de personnes ont été arrêtées la nuit dernière. Il y a toujours des dizaines de personnes par jour. Nous sommes à 10 000 prisonniers dans le territoire occupé. Je parle pour 5 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Nous sommes à 700 morts, dont 160 enfants. Tous les jours, les bulldozers de l'armée détruisent des habitations palestiniennes. On se sent dans une insécurité totale sur toutes les attaques de colons soldats. Contre les Palestiniens, surtout à proximité des colonies, et les colonies, il y en a plein. Et surtout, les difficultés de déplacement. On se déplace pratiquement plus, parce qu'il y a plus que 700 checkpoints et fermetures entre les communes palestiniennes. J'ajoute que même tous les Palestiniens de la Cisjordanie n'ont pas le droit de partir via l'aéroport de Tel Aviv et il faut passer par la Jordanie, ce qui est une souffrance supplémentaire.
Ce qui a volé en éclats, c'est une forme de statu quo qui prévalait depuis des années avec cette occupation qui dure depuis 57 ans. À quand est-ce que vous faites remonter ce déclic ou ce changement ? C'est le 7 octobre ou c'est même avant l'arrivée au pouvoir, et notamment au sein du ministère de la Défense, de ministres d'extrême droite?
C'est bien avant, c'est depuis que Netanyahou est Premier ministre, parce que moi je classe Netanyahou en extrême droite, hein, comme les autres. Malheureusement pour...
Ça fait plus de 15 ans, et puis il y a eu plus récemment l'arrivée de ministres extrémistes.
Voilà, c'est ça. Extrémiste. Il a été renforcé depuis quelques années. Et en fait, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Tout s'aggrave, surtout sa volonté de bafouer, de rendre caduques les accords d'Oslo, des accords de paix qui nous ont fait croire à la paix. Donc depuis qu'il est au pouvoir, et maintenant il est renforcé par son extrême droite, plus dure, pour qu'il n'y ait pas un État palestinien et pour qu'il n'y ait pas pour pousser les Palestiniens aussi à quitter. La vie est impossible dans tous les domaines, domaine de la sécurité, domaine de la santé, domaine de l'éducation et même le domaine économique. Il chante l'autorité palestinienne maintenant qui doit à ses salariés, aux fonctionnaires, plus que 7 mois de salaire.
L'autorité palestinienne a été vidée, dépossédée de son pouvoir. Il y avait à un certain moment des zones sur lesquelles elle avait autorité civile. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Ce n'est effectivement plus le cas aujourd'hui. Les bulldozers de l'armée détruisent partout, dans toutes les zones A, B et C. Et tous les jours, on a l'armée partout. Arrestation, humiliation. Et je peux vous dire que le citoyen palestinien dans le territoire occupé n'ose pas se déplacer d'une commune à l'autre. Et il y a une frustration dans tous les domaines, en fait. Surtout que l'armée essaye d'humilier tous les gens et il agresse physiquement. Et maintenant, on ne fait plus la différence entre colons et soldats. Ils sont ensemble à tuer, à détruire.
Oui, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, les soldats essayaient de faire tampon entre, entre la population et les habitants des colonies. Ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce n'est plus le cas depuis... surtout, ça s'est aggravé depuis l'arrivée de l'extrême droite aux côtés de Netanyahou il y a quelques années.
Anora Bouhiché, cette occupation par Israël des territoires palestiniens, elle dure depuis 57 ans. Elle est illégale au regard du droit international. On ne compte plus les résolutions qui ont demandé sa fin. Une session extraordinaire donc de l'AG de l'ONU se tiendra dans la journée à New York. Elle sera suivie d'un vote exigeant la fin de la colonisation au plus tard dans 12 mois. Vous vous dites quoi quand vous entendez ça? Vous vous dites c'est la énième résolution, elle ne fera pas plus d'effet que les autres ou elle a quand même une utilité?
Je dis que la reconnaissance de l'existence du peuple palestinien et, au niveau international a commencé en 1974 lorsque Yasser Arafat est allé à l'ONU et qu'on a été accepté comme membre observateur de l'Organisation de la Libération de Palestine. Depuis, effectivement, il y a eu beaucoup de résolutions qui n'ont jamais été respectées par Israël, et notamment, surtout, la décision du Conseil de sécurité 2334, qui est très claire pour un État palestinien et pour le droit des Palestiniens, où il n'y a pas eu de veto des Américains.
Donc ce qui va se passer ce soir pour vous, c'est un symbole de plus sans conséquences?
J'espère que ça aura des conséquences. J'espère que l'opinion publique mondiale a évolué, parce que nous vivons sur l'espoir. Hein. Nous voulons pas de pessimisme, mais je crains l'eau froide.
Mais la situation sur le terrain, et on l'a compris en vous écoutant, elle est inextricable avec cette progression de la colonisation, l'implantation des groupes armés aussi palestiniens. La cohabitation, elle est devenue impossible, même si aujourd'hui une résolution exigeait la fin de la colonisation, comment ça pourrait se traduire concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, en tout cas, depuis l'occupation, mais maintenant beaucoup plus, et surtout depuis l'installation du mur de la honte entre
Israéliens et Palestiniens. Le mur de séparation,
oui. Il n'y a plus de contact, en fait. Il n'y a plus de vie commune dans aucune domaine. On est sous occupation dure où on a le seul... Vous savez qu'il y a beaucoup de Palestiniens dans le territoire palestinien qui n'ont jamais vu un Israélien. Ils voient tout simplement le colon, il voit aussi le soldat. Et c'est ou la prison, ou l'agression, ou la destruction de maisons, ou l'humiliation.
En un mot, Mahmoud Abbas est attendu aujourd'hui à Madrid. L'Espagne a été parmi les premiers pays, avec la Norvège, avec l'Irlande, à reconnaître un État de Palestine. Le roi Felipe VI a reçu les lettres de créance du premier ambassadeur de Palestine à Madrid. Vous espérez, vous comptez sur cette reconnaissance diplomatique future ailleurs?
Beaucoup. Et nous espérons que d'autres pays européens suivent, notamment la France, parce que ça correspond au droit international. Et comme tous les hommes politiques en Europe nous parlent de droit international, qu'ils l'appliquent.
Merci à Anora Bouhiché d'avoir été avec nous ce matin, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne. Cet entretien à retrouver sur RFI.fr. Dans une minute, le journal sur la Radio Mondiale. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
émotion, souffle, mouvement, les super-pouvoirs de la respiration.
Demain,
la peur du jugement, s'en défaire et retrouver confiance en soi.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
Ce mardi, sur RFI.
Que révèle le Pompéi marin ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Il y a 515 millions d'années, une éruption volcanique a figé pour l'éternité tout un écosystème d'organismes marins. Pourquoi cette découverte exceptionnelle du géologue Abderrazak El Albani ouvre une nouvelle fenêtre sur l'histoire de la vie ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.